Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. Nous allons aborder un autre thème. Eh bien, de quoi s'agit-il? On va parler des rumeurs d'empoisonnement dans la société. Qu'est-ce qui est à la base de cela? Professeur Ndelo Dipanzu Josaphat, toxicologue et recteur honoraire de l'Université de Kinshasa, et notre invité. Professeur, bonjour.
Bonjour, mon frère.
Bienvenue dans cette émission. Nous allons également accueillir tout à l'heure le professeur Gauthier Moussengue, sociologue, pour échanger autour de cette question. Vous avez des préoccupations par rapport aux rumeurs d'empoisonnement? Eh bien, appelez au 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Marcel Ngombo coordonne et réalise cette émission qui présente Jody Daniel Keshama, Alain Goy à la technique.
Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport à ça.
Je suis vraiment ravi par la pertinence de vos interviews.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Le intouchable, dans ce pays, n'existe pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Les rumeurs d'empoisonnement sont de plus en plus fréquentes dans la société congolaise, que ce soit dans les milieux de travail, dans les milieux politiques ou autres. La mort brusque d'une personne donne souvent lieu à des soupçons d'empoisonnement. Parfois, la famille du disparu exige une autopsie pour en avoir le cœur net. Faute de moyens, d'autres par contre prêtent foi à ces rumeurs d'empoisonnement. On a vu la personne vomir du sang ou vomir des choses verdâtres, tout ça, perdre du poids, etc. Alors, qu'est-ce qui est à la base de ces rumeurs, folles rumeurs d'empoisonnement? Professeur Ndelo Dipanzu Josaphat, vous êtes toxicologue, recteur honoraire de l'Université du Kinshasa. Qu'est-ce qui est à la base de ces rumeurs d'empoisonnement qui s'amplifient dans la société congolaise?
Eh bien, je voudrais d'abord vous rappeler qu'en 2015, j'étais passé sur une émission chez vous qui s'appelle Le Grand Journal, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et j'ai fait une émission d'une heure. Mmh. Et au cours de cette émission, déjà en 2015, j'ai démontré par A plus B le problème. Donc j'ai abordé ces problèmes-là en disant à tout le monde que ce ne sont pas des empoisonnements, que c'est une maladie très grave qui est là, qui est en train de circuler, et qu'elle se transmet exactement comme Covid-19. Mais évidemment, je n'ai pas parlé de Covid-19 à ce moment-là, puisque ça n'existait pas.
Oui.
En fait, qu'est-ce qui se passe? Tout est parti de l'est du pays, où à un moment donné, les gens ont commencé à constater qu'il y a des gens qui se mettaient à maigrir petit à petit. Au début, tout le monde se disait que ça devait être le VIH. Et puis, on a vu que c'était pas ça. Et moi, j'étais ici à Kinshasa, quand je commence à recevoir des gens venant de l'Est, de nord-est du pays, de l'Est, même de Lubumbashi, ainsi de suite, mais disant, professeur Ndelo, oui, c'est vous les toxicologues, oui, alors dites-nous, nous avons été empoisonnés. Par quoi est-ce que nous avons été empoisonnés? Nous ne savons même pas quand est-ce que cela est arrivé, comment ça s'est fait, et qu'est-ce que vous pourriez faire pour nous? Alors, il y a un certain nombre de symptômes clés qui sont de la chaleur dans le corps, mal à la gorge, sécheresse dans la bouche, changement du teint du visage et de la peau, disons vertige, fatigue générale et sexuelle, insomnie, constipation parfois forte. Il y en a qui font même une semaine sans aller à la toilette, manque d'appétit, et donc voilà. Alors tout le monde au début pensait que c'était le VIH, et au début, moi quand j'ai entendu qu'il me parlait de la chaleur qui se déplace, des douleurs qui se déplacent, moi au début je pensais que non seulement c'était peut-être pas le VIH, mais ça devait être le nerf. puisque comment voulez-vous qu'une douleur se déplace, je les envoyais au CNPP. Mais petit à petit, quand j'ai vu que les gens continuaient à venir au laboratoire pour me chercher, je me suis dit, il faut commencer une étude. Et j'ai commencé l'étude. Et en 2010, je découvre quelque chose d'extraordinaire, qu'il est difficile de croire, surtout qu'en RDC, nous n'aimons pas croire la vérité, nous aimons croire le mensonge. Eh bien, j'ai découvert en 2010 qu'il s'agissait d'une intoxication à Helicobacter pylori. Tout le monde connaît cette bactérie. Malheureusement, beaucoup de gens la connaissent très peu, même parfois certains médecins connaissent très peu Helicobacter pylori, ce qui fait qu'on néglige quand on... ce n'est que Helicobacter pylori. Voilà le problème. Dans notre pays où Helicobacter pylori actuellement dans le monde, c'est l'infection qui est connue. S'il y a des médecins qui me suivent, c'est l'infection qui est connue. Moi, je suis au-delà. Intoxication, c'est-à-dire passage des gaz dans le sang. Donc, les deux toxines d'Helicobacter pylori que le médecin connaît très bien. Ammoniaque et gaz carbonique. Ça passe dans le sang. Voilà ce que j'ai découvert.
Et comment s'est fait ce passage de ce gaz dans le sang?
Formidable. Merci beaucoup. Voilà. Les gaz, là, d'abord, la bactérie, là, elle est chez elle dans notre estomac. C'est ça son réservoir. Mais je dois préciser qu'en principe, le réservoir, ce n'est pas l'intérieur de l'estomac, mais la muqueuse gastrique. C'est pour cela que Dieu lui a donné des hélices derrière qui puissent lui permettre de se promener dans la muqueuse gastrique. Mais quand elle arrive à l'intérieur de l'estomac, il faut obligatoirement qu'elle sorte les deux gaz pour se protéger. Et dans la littérature, l'erreur qui est commise jusqu'à présent, c'est de penser qu'au bout de quelque temps, quand c'est produit, les gaz deviennent liquides, donc ne peuvent pas passer dans le sang. Or, quand on regarde tout le monde qui s'est dit empoisonné, moi je suis avec eux, à tout moment j'ai consulté des centaines, des milliers de personnes. Mmh. Eh bien, ils ont les gaz dans le ventre, et ils ont les gaz, et tout le monde pense que quand ils font au mot, ce sont les remontées acides. C'est pas vrai. C'est les gaz qui montent suite à la constipation. Ça monte le long de l'œsophage et les gens sentent la chaleur qui va de l'estomac vers le thorax. S'il y a des gens qui me suivent, qui ont ça, ils suivent et ils savent que je dis la vérité. Ça monte, ça arrive au niveau de la gorge et ces gens sentent parfois, on dirait qu'il y a quelque chose à la gorge. Ils me disent, professeur, je sens qu'il y a quelque chose à la gorge. Oui, c'est le gaz carbonique qui ne peut pas passer au niveau de la bouche. Donc voilà, ça monte, le gaz ammoniaque qui est plus léger arrive dans la bouche, réagit avec la salive. La salive devient gluante, collante, parce qu'il y a formation d'une sorte de savon alcalin. Et quand on crache dans un verre, comme la salive est devenue gluante, collante, eh bien, au lieu que ça se disperse, ça fonce vers le fond. Et on dit, ah, il y a le poison. Oui, l'ammoniaque, moi je connais le poison. Mais tous les autres...
Professeur, certains disent qu'ils vomissent même des trucs verdâtres. Ils sont convaincus qu'il s'agit d'un empoisonnement.
Oui, mais ils sont convaincus. Ce n'est pas parce que tu es convaincu que tu es ange et que tu es ange. C'est pas que parce que tu es convaincu. Dans notre pays, il y a eu quelqu'un qui était convaincu qu'il était Dieu. Est-ce qu'il est devenu Dieu? Non.
on va accueillir les auditeurs, professeur. Nous avons en ligne Serge de Kindu et Charles Kisimba de Lubumbashi. Serge, bonjour.
Bonjour, Radio Capitaine. C'est Kalobia, dans la province de Maniema.
Quelle est votre question par rapport à cette thématique quand nous parlons des rumeurs d'empoisonnement?
Je suis en train de suivre le professeur avec beaucoup d'intérêt. Mais je voudrais seulement aller un peu à l'encontre avec la théorie du professeur. C'est vrai, il peut aussi en train de développer une autre théorie que nous ne connaissons pas, mais si les plantes traditionnelles chez nous, par exemple, chez nous au Maniema, la rumeur est très forte. Donc c'est tout le monde qui meurt avec les poisons. Il y a des choses, il y a des poisons et la poudre là traditionnelle qu'on appelle chez nous les massis. Le problème c'est quoi? Vous pouvez avoir des antécédents avec un gène, vous avez ravi une femme d'autrui, ou soit quelqu'un veut vous remplacer ou il vous a remplacé au travail. ils cherchent des poudres traditionnelles là. On applique ça sur même votre moto ou dans la voiture ou sur la serrure de votre bureau. Et automatiquement, il y a des indices montrant que vous avez vous êtes empoisonné. Ici, chez nous, les tests, c'est comment? Il y a ceux qui font les tests, par exemple, comme ce que le professeur a dit là-bas, vous jetez les salives dans l'eau, sur un verre un peu propre, et puis automatiquement, la salive descend jusqu'au fond. Il y a d'abord le premier test. Le second, il y a des gens qui donnent des trucs, je sais pas, en quelque sorte, des trucs d'arbre, un petit arbre comme ça, vous l'enlevez, et puis vous commencez à vomir, ça c'est du poison. Réellement, les professeurs peuvent développer une théorie de l'autre poison, mais ici, chez nous, au Maniema, il y a d'autres poisons. Par exemple, il y a d'autres qui nous disent il y a la formule du genre GECO. Nous connaissons tous les GECO. Il y a les GECO là, on peut les tuer, ils pourrissent, et puis on met ça dans les aliments de quelqu'un. Et si vous mangez, automatiquement, vous mourrez avec ça. Certainement, je ne dis pas que c'est une rumeur, j'affirme que non. Il y a des gens qui décèdent parce qu'ils ont été empoisonnés. Et il y a d'autres qui peuvent décéder par rapport aux théories du professeur. Maintenant, tout ce que moi je voudrais voir ici, c'est quoi? Tout ça, selon moi, je trouve que c'est la pauvreté. La pauvreté nous pousse à beaucoup de choses. Parce que quand quelqu'un est pauvre, ne pense que le mal à l'autre.
Hein, d'accord, merci. Merci Serge de Kindou. Charles Kissimba, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Oui, bonjour M. Jodé, bonjour aussi, ça va bien.
Quelle est votre question?
En tout cas, comme le sociologue est là-bas, moi j'aimerais un peu savoir pourquoi ici chez nous, en sociologie africaine, d'habitude si un politicien par exemple qui meurt, on dira toujours qu'il a été empoisonné. Alors ça me dépasse souvent. Et en plus, toujours en sociologie, on dit encore que l'empoisonnement est beaucoup plus occidental qu'africain. Alors pourquoi un peu cela? J'aimerais beaucoup plus d'éclaircissement.
Merci. Voilà un peu ma petite question. D'accord. Rémus, vous êtes à Beni. Bonjour.
Bonjour pour Radio Famille.
Quelle est votre question, Rémus, par rapport aux rumeurs d'empoisonnement dans la société?
Merci beaucoup. J'ai seulement quelques préoccupations adressées à notre invité. La première, elle est celle-ci. Est-ce qu'il y a-t-il une université qui a une faculté de médecine traditionnelle? La deuxième préoccupation, est-ce qu'il y a-t-il un test spécial pour confirmer les poisons pour les charlatans? Voilà mes deux préoccupations.
Bien, merci. Professeur Andelo, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Je réponds immédiatement au premier intervenant qui me dit que le GECO, ainsi de suite, on prend le poison, on met ici, on met là-bas, on met sur le partout, et puis il n'y a aucun poison chimique, quel qu'il soit, traditionnel ou non. Vous pensez, vous croyez que quand on dit traditionnel, ça devient différent? Et que nous sommes dans un monde différent du monde. C'est l'une des erreurs fondamentales que nous commettons en RDC. Le monde est monde. Tout ce qui est dans le monde est connu. Il suffit d'aller lire dans la littérature et vous serez étonné de voir que tout est connu. Mais combien de personnes lisent? Très peu. C'est l'une des erreurs fondamentales, mon frère. Il dit que chez eux, au Maniema. Mais moi, je reçois les gens de Maniema. Qu'est-ce qu'ils viennent faire chez moi? Et tous ces gens, tous les symptômes que j'ai donnés sont toujours les mêmes pour ce poison-là, ce qu'on appelle le poison carreau ou je ne sais pas tout ce qu'il a raconté là. Vous voyez? Donc c'est faux. Deuxièmement, pour les tests, je n'ai donné que celui-là. Mais tous les autres, je les connais. Si vous prenez un produit, une plante qui contient des tanins, moi je parle science, hein. Lui, il parle seulement. Moi, je parle science. Si vous prenez, par exemple, le thé rouge, là, vous connaissez le thé rouge qu'on vend en vrac?
Oui.
C'est aussi utilisé comme test traditionnellement. Pourquoi? Parce que scientifiquement, moi, je sais, ce n'est pas seulement moi, qu'il y a des tanins catéchiques dedans. Si vous prenez les tanins catéchiques, vous donnez à quelqu'un qui a beaucoup de gaz dans le ventre, automatiquement, il va vomir parce que le gaz vont réagir en force. Vous comprenez? Voilà ça. Et troisièmement, et parfois on prend la salive, on la met sur une feuille de papier jaunâtre qui devient verdâtre. C'est un papier qu'on appelle le papier indicateur universel que nous utilisons dans nos laboratoires pour savoir si on est en présence d'une base ou d'un acide. Donc, il se trompe. Vraiment, le problème, c'est que, je répète, parce que nous pensons que c'est comme ça et nous pensons que c'est comme ça, ce n'est pas vrai du tout. La science est là et la science arrive toujours à combattre les préjugés. L'erreur, c'est quoi? C'est que et nos autorités, et même nos services médicaux, même les médecins eux-mêmes, malheureusement, se laissent un peu avoir, berner parfois, et se laissent aller aussi dans ces histoires-là. C'est ça le mal. Aucune autorité ne s'occupe de savoir ou d'appeler Ndelo. Viens un peu, dites-nous un peu, et puis voyons un peu. Personne. Voilà le drame. C'est ça ce qui est vraiment malheureux.
Professeur, il y a Charles même qui dit, lorsqu'un politicien décède directement, on pense au poison. Dernièrement, il y avait des rumeurs, voilà, à la présidence, il y a beaucoup de décès, soit c'est Covid, soit c'est l'empoisonnement. On dit que même au niveau des splits, tout ça, on y met du poison dans les poignets. Voilà, les gens deviennent méfiants, on a peur à tout moment.
Je vais vous dire, tout cela c'est faux. F-A-U-X en majuscule. Même si on dit, oh, les professeurs, comme il a dit, lui, il est en train de parler d'un autre poison. Non, messieurs, non. C'est parce qu'il est très loin. Moi, j'allais l'inviter de venir pour qu'on puisse parler, lui et moi, et j'allais lui montrer toutes les preuves. C'est dommage que dans une émission comme celle-ci, il n'y a pas moyen de détailler, de donner tous les détails sur tout ce que j'ai découvert dans une recherche que j'ai commencé en 1990 jusqu'à aujourd'hui, 30 ans de recherche, avec des publications internationales. Et donc, ce n'est pas de la blague. Et donc, quand quelqu'un meurt, automatiquement, on veut seulement chercher, ça doit être, il a été empoisonné. Je vois même quand quelqu'un parle au micro, on vient mettre tchou-tchou-tchou pour mettre un peu de truc. Dernièrement, un pasteur a failli mourir, un grand pasteur de notre pays. Eh bien, qu'il m'excuse si me suit, mais je ne vais pas donner son nom, donc personne ne saura. Eh bien, là, à son église, on a dit, ah, il a été empoisonné dès qu'on a dit ça. Alors qu'il y a des médecins dans son église, ils se sont mis de côté et ils ont laissé venir des charlatans pour lui donner
pour les traiter.
Quoi. Oui, je vous assure qu'il était mourant. Quand on l'a emmené chez moi, heureusement, un autre pasteur qui était passé chez moi a dit non, mais allez chez le professeur Ndelo. Et il est arrivé, il était mal en point. 4 jours après, il était sur pied. Alors, il était médecin de centre, pas les cliniques universitaires, mais le centre de santé du Mont en bas, est venu me voir et nous avons parlé pendant 3 heures du temps. Il a dit, professeur Ndelo, il faudrait nous apprendre toutes ces choses. Mais moi, j'ai dit, moi, je suis là. Comme tu es venu, est-ce que je n'ai pas parlé? Hein? Vous voyez? Et donc, il est en vie maintenant. Et dernièrement, une autorité, une grosse autorité, a failli mourir aussi. On a dit empoisonnement, tout ça. Et il y a les gens les plus dangereux, ce ne sont pas les tradis praticiens. Ce sont les gens-là qui ont des scanners, des petits scanners, et qui se font passer pour des toxicologues, alors qu'ils n'ont que des toxicologues le nom. Ces scanners-là, ça marche à tous les coups, ça vous montre. Je connais ça. Et si c'était des trucs, mais il y en aurait partout dans les hôpitaux. Vous comprenez, non? Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, oh là là, l'arsenic, le pancréas est déjà atteint. Et ils aiment bien les pancréas. Et alors, il donne un antidote. Et écoute-moi bien, mon frère, écoutez-moi bien tous. Il va donner un antidote. Et l'antidote, là, c'est plein de paracétamol. Je le sais parce que je l'ai surpris au chevet de ces malades-là. Mmh. Et il a été envoyé par une autorité, par un service très, très haut placé. Je ne donne pas le nom. Alors, maintenant, les paracétamol, lorsqu'on les prend régulièrement, même à faible dose, ils se transforment en un produit violent qu'on appelle N-acétylparabenzoquinone-imine et ils tuent. Et voilà, c'est ça qui s'est passé à la présidence. Je vous assure, c'est ça.
Et ça n'a rien à voir que c'est dans les splits. Dans les splits, c'est normal que quand le split sort parfois de gaz qui ne sont pas, comment je pourrais dire, qui sont contre l'oxygène. Parce qu'en fait, l'intoxication dont je parle, moi, c'est une intoxication qui est activée par les gaz carboniques. C'est dommage que je ne peux pas tout dire parce que il y a tellement de choses à dire, mais il y a beaucoup de gens qui parlent et c'est difficile.
D'accord,
je... que vous puissiez prévoir encore
une autre émission où vous allez, où vous reviendrez parler de ça.
On va, grand journal.
D'accord, on va accueillir Fabien de Kindou et Jérémy Mwamba de Lubumbashi. On parle des rumeurs d'empoisonnement. Jérémy, pardon, Fabien, bonjour.
Bonjour, monsieur Jordanien Kachama, et bonjour à l'invité.
Rapidement, quelle est votre préoccupation?
Et moi, pas de émettre ma préoccupation. J'aimerais d'abord dire ceci. J'ai suivi l'invité avec beaucoup d'attention. Alors, comme si c'est nous à Tim, nous sommes vraiment habitués d'aller chez les charlatans pour ce cas-là. Nous sommes entourés par des charlatans. Les gens ne croient plus encore à la médecine moderne. Il recourt toujours à la médecine traditionnelle, aux charlatans là, qui ont leurs tests là, leurs fameux tests qui ne produisent pas de résultats qui sont sûrs. Alors, moi j'aimerais dire ceci. Il faut que le gouvernement passe à l'arrestation de tous ces charlatans là, qui bouffent l'argent des gens, sans toutefois avoir une solution favorable. Il y a même des charlatans ambulants qui passent de maison par maison pour demander où vous avez des poisons. Est-ce que vous avez quelques cas? Je ne sais pas si c'est le cas de la pauvreté, je ne sais pas vraiment.
Merci Fabien. Merci Fabien. On a retenu votre préoccupation. Jérémy Mwamba, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour Monsieur Jordi. Bonjour également à l'invité. Je pense que là qui revient la faute si le peuple congolais aujourd'hui sont trompés par les soi-disant charlatans, c'est la faute revient juste au gouvernement et via le ministère ayant en charge la santé. Comment voulez-vous, M. Jody, le ministre de Tetel pouvait-il ou peut laisser tous ces gens-là marcher la tête haute sans qu'ils ne se rendent compte que ces gens-là sont en train de pouvoir assommer la population et rationner complètement la population? Lorsque la population aujourd'hui est trompée, il y a une maladie, il a eu un problème de digestion, mais on lui dit non, c'est l'empoisonnement. Et tout ça, sans qu'il y ait diagnostic, sans qu'il y ait examen préalablement fait.
Oui, les gens pensent, les gens disent souvent non au bureau, les autres sont jaloux, ou soit quelqu'un a eu la promotion, on dit bon, attention, les jaloux l'ont empoisonné.
Non, bien sûr, même s'il y a cas d'empoisonnement, c'est... Donc, aux structures sanitaires, d'en déterminer et d'en définir, ce n'est pas les gens de la rue. Mais comment voulez-vous que le ministère ayant en charge la santé ne puisse pas mettre assainir son espace pour voir qui doit faire quoi et pourquoi il doit faire? Parce qu'il y a un désordre qui s'organise. Non, on doit d'abord voir quelqu'un doit aller au centre de santé. Parce que même la Bible dit, mon peuple meurt faute de
Jérémy, beaucoup disent que le traitement, la médecine moderne, ça ne marche pas. Il faut voir ces charlatans, là, ils ont des traitements efficaces.
Mais est-ce que la question maintenant qu'on se pose, même s'ils œuvrent, qui leur a donné l'aval? Est-ce que c'est le ministère ou les responsables? Ils travaillent sans papier, ces gens-là. Mais lorsque les gens travaillent sans papier, ils travaillent dans l'illégalité, ils sont dans les normes du pays. Ils doivent normalement aller toquer aux structures sanitaires, travailler concomitamment avec le ministère. C'est lui le seul responsable en ce qui concerne la santé. Et non tous ces gens-là qui tuent la population à petit feu sans le savoir. Non. Alors, il faut que maintenant on mette de l'ordre. Même s'ils sont là, ils doivent s'aligner. Et là, je m'interpelle un peu l'ordre de médecins. Ils doivent se mettre debout pour mettre de l'ordre dans leur cuisine. Sinon, on est en train de faire autre chose.
Merci.
Bien sûr.
Merci, Jérémy. Papi Kalema, vous êtes à Kindou. Bonjour.
Bonjour, aujourd'hui, Daniel Kachama.
On vous écoute.
Mes prédécesseurs ont presque tout balayé. Mais je n'avais que deux petites questions à poser à l'invité. À l'attendant, c'est comme si il est en train de ne pas soutenir la thèse du poison. Bon, c'est bien, vous intitulez l'émission La Rumeur. Mais la question que je voulais poser à notre invité est celle de savoir, est-ce que le poison d'abord existe? Ça c'est un. Est-ce que l'excès d'alcool dans le corps d'un homme peut créer un poison? Parce que j'ai suivi une personne me parler dans une discussion comme ça, dans les quartiers à la cité, que si vous prenez beaucoup d'alcool, ça doit entraîner ou bien créer les poisons dans le corps. Est-ce que l'invité, par rapport à son domaine, peut me confirmer cette thèse à laquelle que le poison peut être créé par l'alcool, l'excès d'alcool?
L'excès d'alcool.
C'est une question que j'avais.
D'accord.
Oui, oui.
Merci, papy. Est-ce que l'excès... D'accord. Professeur Ndelo, vous avez suivi...
Oui, je suis là.
Vous avez suivi les différentes préoccupations des auditeurs. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
D'abord, je laisse d'abord la dernière question, je vais venir là après. Mais les autres qui ont commencé, qui ont parlé avant, viennent de montrer clairement ce que j'ai dit, que nous sommes en danger. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'organisation au niveau du gouvernement. Le ministère de la Santé ne se préoccupe pas de ça. Je suis allé jusque-là, je n'ai même pas été reçu, même pas par le conseiller médical, pas de ce gouvernement, le gouvernement qui venait de sauter. Ils ne m'ont pas reçu. Ça ne les intéresse pas. Voilà le drame. Voyez ? J'ai été jusqu'à la présidence. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Si on nous envoie aller étudier, j'ai étudié dans 4 pays différents. Je suis toxicologue, je connais tous les poisons. Et quand on ne veut pas donner la parole à ceux qui savent, comment voulez-vous que ceux qui ne savent pas commencent à dominer ceux qui savent? C'est dramatique. Vous comprenez? Alors c'est normal que les charlatans puissent faire n'importe quoi. C'est normal que des gens qui ont des petits appareils qu'ils appellent, je ne sais plus le terme, eh bien, ils font n'importe quoi. Une fois, une de mes malades est venue me dire que leur sœur était souffrante. Ils sont allés quelque part en Binza. Le monsieur là leur a demandé $5,000 pour l'empoisonnement. Ils ont pu réussir la moitié. Ils ont versé une semaine après, la dame est morte et il a dit « Ah, c'était déjà arrivé dans tous les compartiments humains.
Oui. »
C'est de la vaste blague tout ça. Maintenant, est-ce que le poison existe? Mais le poison existe, bon Dieu de bon Dieu. Est-ce que l'alcool crée? Non, il ne crée pas. L'alcool est un poison. Même si on le prend à petite dose, mais si on prend pendant longtemps, eh bien, tu vas en mourir. C'est clair et c'est net. Les poisons sont divers. Il y a plein de poisons. Chaque poison a ses symptômes. Mais ici, le seul poison qui est connu, c'est celui qui donne les symptômes dont j'ai parlé au début. OK? Et le monsieur là qui nous avait dit au premier que le j'ai collé, on n'a rien à voir dedans. C'est de la vaste blague. Le GECO, c'est de la vaste blague, mes chers amis. Donc, chaque poison a ses symptômes. Le poison existe, messieurs, mais chaque poison a ses symptômes et tous les poisons ne fonctionnent pas de la même manière. Mais ici, ces poisons-là, tout le monde a les mêmes effets. Vous comprenez?
D'une professeur, certains sont convaincus que le GECO a des substances dangereuses qui peuvent tuer.
Entrez dans la littérature, vous êtes journaliste, non? Mais entrez dans la littérature, voilà le problème, c'est ça. J'ai dit ceci, le problème qui tue le Congolais, c'est quoi? Ou le nom en général, le Congolais en particulier, nous n'aimons pas lire. Vous comprenez? Et si moi je connais des choses, c'est parce que j'ai dit... Je ne fais que ça, lire, réfléchir, lire, et puis avancer. C'est ça le problème.
Voilà.
Donc, qu'on sache de
voilà.
Quoi il s'agit.
Professeur Ndelo, on nous
mais
dit
je
que...
répète, pardon, oui. Je termine par dire, comme le monsieur-ci venait de dire l'avant-dernier, que le gouvernement prenne ses responsabilités, et que vous, les journalistes, que vous puissiez maintenant inviter, si c'est le ministre ou si c'est je ne sais pas qui, il faudrait que quelqu'un vienne chez vous, et vous allez chez lui, et lui dire que voilà ce que nous venons de faire une émission. On a dit que le gouvernement ne fait rien. Et je confirme, il ne fait rien.
Enfin, celui-ci, le nouveau gouvernement, je n'ai pas encore pris contact, mais celui qui était là, et les autres. Il y a eu même un ministre de la Santé qui est venu dans mon bureau il y a 3 ans. Il m'a parlé, il m'a félicité quand je demandais de me donner les moyens, et je ne l'ai plus jamais vu. Mmh. Vous imaginez? Et la présidence, j'étais là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse encore? Moi, je suis découragé, je ne fais plus rien du tout.
Bien. Professeur Ndelo nous dit aujourd'hui que la plupart des rumeurs d'empoisonnement qu'on entend dans la société, il ne s'agit pas du poison, c'est plutôt une intoxication au gaz carbonique.
Non. Quand on parle d'intoxication, il y a le poison, mais qu'on ne donne pas... comprenez-moi bien. L'intoxication, c'est l'empoisonnement, mais pas l'empoisonnement que quelqu'un te donne de poison. On utilise le terme empoisonnement lorsque quelqu'un te donne un poison. Lorsque ton enfant boit du pétrole, il meurt. C'est pas un poison. On appelle ça une intoxication involontaire, accidentelle. Mmh. Vous comprenez, non?
Oui.
Donc, quand je parle de l'intoxication Helicobacter pylori, il y a des poisons. Les deux gaz-là, c'est des poisons violents. Allez dans la littérature. Écrivez gaz ammoniaque. Écrivez gaz carbonique. Vous allez voir. Et vous allez retrouver tous les symptômes dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, mon frère.
Mmh. Et comment ça se retrouve dans le corps humain? Peut-être parce qu'on avait...
La bactérie Helicobacter pylori, nous l'avons souvent depuis l'enfance. Et 80% des personnes qui l'ont ne sentent même pas qu'ils ont cette bactérie parce qu'ils ne font même pas la gastrite. Mais dès que quelqu'un commence à faire la gastrite, sachez que l'intoxication à Helicobacter pylori commence, c'est-à-dire que les gaz là que la bactérie est en train de sortir, ce sont ces gaz là qui sont en train de couvrir la gastrite, et à la longue, les gaz peuvent passer dans le sang, et c'est à ce moment-là qu'on aura tous les problèmes extra-digestifs qui sont causés normalement par la déshydratation forte que les malades vont avoir suite à la perte de ils transpirent très fortement et ils perdent beaucoup d'eau, ils font pipi très très souvent, et puis comme le corps aussi chauffe, ils perdent beaucoup d'eau et ils sont très très fortement déshydratés, et beaucoup de problèmes qu'ils ont, tous ces gens-là, même des kindous, même des je ne sais où, c'est lié uniquement à la déshydratation, vous imaginez? Et donc il suffit qu'on gère la déshydratation et on peut arriver à sauver beaucoup de personnes qui meurent pour rien.
Bien, voilà. On va accueillir Eminent Mwanda de Bukavu. Bonjour.
Bonjour monsieur Jody, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs.
Quelle est votre question, Eminent?
Ma question assez concerne d'abord les poisons, soit la pratique des gens assez concerne l'intoxication du poison. Je voulais d'abord poser la question à l'invité. Est-ce que quels sont vraiment les effets, quels sont les effets que peut présenter l'individu et qui peuvent conduire à ce qu'on puisse certifier que l'individu est empoisonné? Et l'empoisonnement aussi et ses effets en l'air du jour au lendemain d'un Congolais, et cela suite au manque d'efficacité de traitement subi auprès de certaines structures médicales, de la place où le médicament précède la consultation. Et dans la plupart des cas, les infirmiers admettent le plus souvent le sérum, un diagnostic incompatible des poisons, et n'est pas sage d'encourager l'automédicament, il n'est pas sage d'encourager l'automédication ou se faire soigner auprès des charlatans. Mais ce qui est d'abord ma question est de savoir pour qui est d'abord les gens, les individus ou les personnes qui pensent avoir la poison. Qu'est-ce qui peut
le poison
montrer qui sont atteints de poison? C'est ça ma question, monsieur.
Bien. Merci Eminent Mwanda. Nous avons en ligne professeur Gauthier Moussengue, sociologue. Bonjour professeur.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Nous parlons des rumeurs d'empoisonnement de plus en plus dans la société. Des folles rumeurs autour de cas d'empoisonnement circulent. Alors, en tant que sociologue, qu'est-ce qui est à la base de cela?
Bon, il est vrai que depuis un certain temps, il y a une certaine frustration, trop de rumeurs sur le poison.
alors que avant il n'y en avait pas. Nous, quand nous étions jeunes, quand on parlait du poison, on voyait, on entendait le poison dans les milieux de politiques et puis de grandes personnalités, tout ça. Mais maintenant, le poison est devenu un peu populaire, même au niveau de, au niveau de la masse, parce que on dit que c'est l'influence du Rwanda, parce que le Rwanda, c'est un monde où il y a trop de poison. Et cette influence du Rwanda dans notre pays a fait que les gens ne se font plus confiance. Il y a les gens empoisonnent facilement les autres. Parce que vous savez, au Rwanda, par exemple, vous ne pouvez pas prendre la boisson ne se prend pas dans le verre, ça se prend dans des bouteilles, parce que on a peur des autres. Quand nous étions étudiants, moi j'ai fait le graduat à Kisangani. Quand nous étions étudiants, nous les Bantous, si je peux dire ça, mm-hmm. quand on préparait au home, vous préparez et vous laissez à manger aux absents. Mais l'étudiant originaire de Rwanda, Tutsi par exemple, eux, quand ils préparaient, d'abord, tous sont là, assis, en train d'observer, de suivre celui qui prépare. Tous le suivent, ils sont assis, tout le monde est là. Et ils mangent. L'absent, on ne lui laisse pas à manger. C'est lui-même qui viendra préparer. Si on lui laisse à manger, il ne mangera pas. Parce qu'il n'y a pas confiance entre eux. Alors que, entre nous, quand on prépare, on laisse à manger à l'absent, et l'absent qui viendra va manger sans problème. Sans problème, il ne peut pas imaginer qu'on peut l'empoisonner. Donc, il y a confiance. Alors, maintenant, cette culture-là est intervenue chez nous. Chez nous, maintenant, on apprend qu'on empoisonne les gens facilement. Ce sont des rumeurs, mais cette rumeur part de réalité. Beaucoup de gens sont empoisonnés et il faut maintenant chercher les antidotes, il faut chercher les médicaments pour se faire soigner. Alors, ce qui fait que cette influence du Rwanda fait qu'il n'y a pas confiance, on ne fait plus confiance aux autres. D'ailleurs, dans beaucoup d'endroits, on ne prend plus la bière dans des verres, alors que nous avions dans des buvettes, dans des bars, ainsi de suite. Dans nos habitudes, on prenait toujours dans le verre. Maintenant, on ne sert plus le verre. Nous avons maintenant les habitudes du Rwanda. On ne sert plus dans le verre. Vous prenez la boisson dans la bouteille. Et les gens ne se font plus confiance. On ne mange plus facilement comme avant. Alors que nous, quand nous étions avant, vous allez partout, on vous sert à manger. Vous ne pouvez pas imaginer qu'on peut vous causer du tort. Parce qu'il y avait solidarité, il y avait amour du prochain. Mm. On vous sert à manger. Vous mangez facilement et il n'y aura aucun problème. Aujourd'hui, si on vous donne à manger, surtout que vous n'étiez pas là, vous ne savez pas d'où ça vient, vous n'allez pas manger. Donc, il y a maintenant crise de confiance parce que les gens ont acquis les mauvaises habitudes qui sont venues du Rwanda. Voilà, c'est ça le grand problème chez nous.
Et certains disent qu'aujourd'hui, il faut toujours avoir du miel à côté parce que si jamais on vous empoisonne, le miel va anéantir les effets du poison.
Oui, justement, parce que y a le miel, il y a le lait. Ce sont les éléments qui savent bien anéantir du poison, mais ça dépend du degré de poison. Vous pouvez avoir du miel, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses, maintenant nous connaissons beaucoup de choses. Il y a même une sorte de champignons, de champignons blancs là. Il paraît que quand vous mettez ça dans l'eau, vous prenez cette eau-là, c'est un antipoison. Mais ça dépend des degrés de poison et puis ça dépend du temps. De pénétration du poison dans le corps. Donc, c'est vrai, il y a des antidotes, il y a tout ça, ça dépend, parce que ça n'a pas la même efficacité.
Bien, heureusement que nous avons un toxicologue en ligne, lui, il va encore nous donner les détails. On va accueillir Dieu Merci depuis Yarou. Bonjour.
Bonjour, je suis Dieu Merci à Lundu, à Yarou.
Quelle est votre question, Dieu Merci?
Oui, moi j'interviens par rapport à la parole de notre personne là au plateau.
Oui.
Oui. Moi, je suis victime de ces poisons depuis cette semaine. Si, moi, je ne sais pas, je voudrais poser la question à notre invité.
Oui, allez-y.
Oui, que dois-je faire maintenant? Parce que moi, je souffre pas mal au ventre. Qu'est-ce que je dois faire à cause de cela? Parce que moi, j'ai déjà le poison au ventre. Qu'est-ce que je dois faire?
Comment vous savez que vous avez le poison, Dieu merci?
Ça va pas mal. Ça va vraiment. Ça va pas bien, vraiment, je dis.
Qu'est-ce que vous avez mangé et quels sont les signes qui vous rassure qu'il s'agit d'un empoisonnement?
Oui, merci. Depuis le mardi soir, j'avais pris les légumes. J'ai commencé à manger, mais quelques temps après, j'ai commencé à sentir que ça ne va pas. Alors, le matin, moi, je suis un enseignant ici à Andorra. Alors, je voudrais aller au service, alors ça ne va pas. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qui fait que mon ventre ne va pas mal. Est-ce qu'il peut m'expliquer cela, le cas?
Voilà. Professeur Ndelo, notre ami a pris des légumes et puis... Il a des soucis au ventre depuis quelques temps. Alors, il s'est dit, il est convaincu qu'il s'agit d'un empoisonnement. Professeur Ndelo.
S'il vous plaît, je voudrais d'abord revenir au professeur sociologue. Vous voyez pourquoi ça ne marche pas dans notre pays? Tout le monde est spécialiste en tout. Vous avez entendu. Il a parlé comme un spécialiste. Il connaît que ça vient du Rwanda, il connaît que il faut des antidotes, le miel, ceci, cela, même de champignons. Et il dit, il paraît que le petit champignon. Vous voyez? C'est ça le drame de notre pays. Tout ce que, je suis désolé, mais j'aimerais bien, si c'est un professeur de l'université de Kinshasa, j'aimerais que vous puissiez me donner ou lui donner mes coordonnées ou me donner ses coordonnées pour qu'on puisse se rencontrer, qu'on se parle.
Non, le professeur n'a fait que rapporter ce qui s'est dit dans dans la société.
Il n'a pas rapporté, il a dit, il a affirmé ce qui est faux. Il aurait dû rapporter et non pas affirmer, mon frère. C'est grave, c'est très grave ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Voilà pourquoi les gens qui étudient, qui sont censés connaître ou qui devraient connaître, ne connaissent pas. Nous nous laissons maintenant conduire par toute la populace. Voilà le drame. Le miel n'est pas un antipoison, le miel est un antibactérien. Et c'est parce qu'il s'agit d'une bactérie qui est l'Helicobacter pylori que le miel peut diminuer la force de la bactérie, mais ça ne s'arrête pas parce que le miel est incapable de tuer cette bactérie-là. Ah mon Dieu de bon Dieu, mais qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il y a des siècles et des millénaires, un monsieur était décédé. Il s'appelait Galilée parce qu'il a dit que la Terre tourne autour du Soleil. On l'a assassiné. Deux siècles plus tard, on lui a donné raison. C'est dommage. Il était déjà mort. Peut-être qu'il serait encore vivant aujourd'hui. Mais mes chers amis, c'est dramatique. Comment un sociologue peut parler comme ça? Il doit présenter ce qui se passe dans la population et non pas ce que lui, il croit. Voilà pourquoi toutes ces rumeurs continuent à persister. Et je me présente en faux devant lui. Qu'il puisse me rencontrer et il verra que tout ce qu'il a raconté là, c'est de la vaste blague. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui ne lit pas, du moins sur la toxicologie. Peut-être qu'il lit sur les sciences sociales. Mais en toxicologie, c'est pas lui, il ne lit pas, il ne s'y connaît pas. Je suis désolé.
Il a parlé de cela comme un phénomène social. Il a expliqué ce qui se passe dans la société, professeur.
J'ai suivi, mais il a mal parlé parce que les gens qui l'ont suivi ne vont pas penser qu'il a parlé en tant que phénomène social. Mais il a affirmé. Voilà, c'est pas bon. Alors, maintenant, le monsieur-là, je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de gens viennent chez moi. Et vous savez parfois c'est quoi? Parfois c'est une malaria et il dit qu'il a été empoisonné. Parfois c'est une fièvre typhoïde, il dit qu'il a été empoisonné. Parfois c'est plein de choses qui n'ont
Dieu
rien
merci.
À voir.
Ah, Dieu merci nous dit qu'il a pris des légumes et depuis lors il
mais
a...
Mais ça ne me concerne pas.
Il a des soucis.
Est-ce que je suis un magicien?
Maintenant comment détecter qu'il s'agit d'une intoxication ou pas?
Mais moi, je sais comment on fait, mais je ne vais pas, à distance comme ça, je ne vais pas dire, ça doit être ceci, ça doit être là. Et ça, ce sont les tradis praticiens qui font ça, pardon, les charlatans. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas un charlatan, monsieur. Voilà le drame que nous avons. Et vous êtes prêt à ce que je dise à ces messieurs-là? Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise?
Bon, quel conseil vous pouvez lui donner? Où est-ce qu'il doit se rendre pour...
Mais je n'en sais rien. Où est-ce qu'il habite d'abord? Où est-ce que, là où il habite, est-ce qu'il y a des hôpitaux ou quoi? Je n'en sais rien.
Bon, peut-être qu'il doit aller voir un toxicologue qui est à Roux, qui peut...
Mais je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a des toxicologues dans notre pays? Vous en connaissez-vous? Où il y a des gens qui se font passer pour toxicologues?
Professeur, voilà, est-ce qu'il n'y a pas de faculté où on forme des...
Moi, je suis toxicologue.
Oui.
OK? J'étais formé à l'étranger et j'ai formé d'autres toxicologues. Mes collaborateurs sont des toxicologues. Mais il y en a beaucoup qui se font passer pour des toxicologues, mais qui ne le sont pas. Et qui bouffent l'argent. Tout à l'heure, les messieurs là, il y a deux ou trois qui ont dit que vraiment ces charlatans, c'était un des Kindous d'ailleurs, tous ces charlatans devraient être mis hors d'état de nuire. Et le monsieur là, qu'il aille à l'hôpital, bon Dieu de bon Dieu. Qu'il aille à l'hôpital. Il me pose à 1000 kilomètres ou 2000 kilomètres que je lui dise ce que, pourquoi il est malade, qu'est-ce qu'il faut faire. Il a pris des légumes, donc que je devine qu'est-ce qui est arrivé.
Bon, professeur Ndelo, je vais lire rapidement la réaction d'Hippolyte Moulenda qui coudit.
Oh là là.
Depuis la Lomami, il dit cette thématique est très sensible et un réel problème de santé publique au Capi Service. Faute de connaissances dans la différenciation de ces deux concepts en termes des effets et faute d'une culture des fréquentations des médecins pour tout problème de santé. Je me souviens personnellement m'être rendu aussi coupable de ces préjugés un jour à la suite d'une manifestation de réjouissance organisée chez un ami, après avoir pris une tasse de thé et ressenti des vertiges, tremblements, tellement que, hanté par son origine ethnique, réputée dans la communauté comme ayant beaucoup plus recours à cette pratique pour régler des différends, quand bien même il n'y en avait pas entre moi et ces derniers. Comme remède à cette situation, seule une sensibilisation via les structures telles que ONG, relais communautaires, voilà, pourrait permettre la médiatisation de ces sujets. Professeur Gauthier Moussengue, votre réaction? Professeur Gauthier, vous êtes en ligne? Voilà, dommage, il n'est plus en ligne. Professeur Nello.
Mais voilà, vous voyez ce qu'il vient de dire? Ça, c'est formidable. Voilà un homme sage. Il s'est fait avoir dans ses préjugés et puis il a vu que non, ce n'est pas comme ça. Et il conclut en disant, il faut une forte sensibilisation qui doit être dirigée par le gouvernement. Pas seulement les ONG, mais les gouvernements. Est-ce qu'il s'en préoccupe? Est-ce que le ministre de la Santé s'en préoccupe? Moi, je n'en sais rien. Comment les atteindre de même? Comment l'atteindre? Comment lui parler? Voilà les problèmes.
Voilà. Peut-être il est important, comme vous l'avez dit, renforcer la sensibilisation, dire aux gens, si vous avez des soupçons d'empoisonnement, voilà auprès de qui il faut, voilà quelle personne il faut rapidement contacter pour en avoir le cœur net.
Il faut d'abord organiser les choses. Il faut organiser. Quelqu'un a dit tout à l'heure que même, comment on appelle ça, l'ordre des médecins doit organiser ces problèmes, doit regarder ces problèmes-là. Vous comprenez? Un jour, l'ordre des médecins peut faire venir le professeur Ndelo. Et on peut parler ensemble pour qu'ils voient que ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de faire, ce n'est pas n'importe quoi. Vous voyez? Il y a même des médecins qui m'ont dit que moi je fais le faux médecin parce que je ne... Mais moi je soigne en tant que toxicologue. Toxicologue formé et ayant été reconnu par les tribunaux de grande instance de notre pays. Vous voyez? Et partout à travers le monde, les intoxications sont traitées par des toxicologues. Et les drames que nous avons, je vais vous dire à la fin, nous n'avons aucun médecin toxicologue. Aucun.
Dans ce grand pays, le Congo, il y a aucun médecin toxicologue.
Toxicologue. Heureusement, en pédiatrie, il y a un collègue à nous, un ami d'ailleurs, qui a fait une recherche sur une plante qui a tué beaucoup d'enfants. Et c'est lui qui fait office de toxicologue en pédiatrie. Mais en fait, il n'y en a pas. Et c'est ça le premier problème. Il faudrait former tout de suite et le plus rapidement possible d'un médecin toxicologue. Vous voyez? Parce que c'est eux qui vont prendre les choses en main. Moi, en principe, je suis toxicologue. Mais toxicologue, les recherches, et puis je donne mes résultats aux autres toxicologues cliniciens qui doivent faire le travail.
Professeur Mello, on va terminer avec la question de Charles de Kananga. Charles, bonjour.
Bonjour.
Rapidement, quelle est votre question?
Bon, ma question est comme suite. Je voudrais demander d'abord pardon au professeur, je ne sais pas, je ne suis pas contre le professeur. Je voudrais lui montrer tout simplement que je suis à Kananga, dans une école qu'on appelle Dikalaï, une école bien connue. Il y a eu beaucoup de jeunes gens qui ont été intoxiqués au même moment à Dikalaï. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mangé des haricots où on avait constaté un chevreau mort. Donc tous ces enfants-là, un seul jour, tous ceux qui étaient arrivés là, avec cette époque-là, peuvent vraiment appuyer ma parole.
Et tous ces enfants étaient morts?
Oui, il y a eu des morts. Il y a eu des morts.
D'accord, merci. Mais... Charles. Charles a dit, professeur, ne vous fâchez pas.
Non, je ne vais pas me fâcher. Mais fâcher pourquoi? On appelle ça une toxi-infection alimentaire.
Oui.
Ok? C'est une toxi-infection alimentaire et elle peut tuer très fortement. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en présence d'un aliment qui contient, par exemple, une pourriture. Pourriture, cela veut dire qu'il y a des micro-organismes, il y a des microbes qui sont entrés dans l'aliment. D'ailleurs, lui-même, il a dit non. C'est, je ne sais pas moi qu'est-ce qu'il y avait là-dedans.
Un gecko qui s'est retrouvé dans les haricots.
Oui, mais ça n'a rien à voir que c'est le toxique du gecko. Non, les micro-organismes amenés par les geckos peuvent maintenant servir...
Professeur Ndelo.
C'est ce qu'on appelle
professeur Ndelo.
Infection alimentaire.
On a plus beaucoup de temps, on est arrivé à la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes toxicologue. On aura l'occasion de revenir là-dessus, professeur, la fois prochaine. Merci. D'avoir accepté de participer à cette émission. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission au Capi Service. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Il est 12h à Kinshasa.